C'est une joie en tout cas de voir que l'œuvre de Dieu va de l'avant malgré les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus vient bientôt. La mauvaise nouvelle, c'est que ces temps vont aller en s'empirant. Mais terminons sur encore une bonne nouvelle, celui qui nous a sauvés a le pouvoir de nous affermir et de nous garder fidèles jusqu'à la fin. Mais à notre charge aussi, d'affermir à la fois notre vocation, nous dira l'apôtre Pierre, et notre élection. Et c'est le but justement du partage de la parole de Dieu, que nous puissions en effet la recevoir comme cette manne si précieuse. Et plaise au Seigneur que jamais nous ne puissions dire, comme l'ont dit en son temps d'autres qui ont vécu avant nous, nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Plaise à Dieu que jamais nous ne disions cela, mais même si on ne le dit pas, qu'on ne le pense pas. Hein? Alléluia. Voilà, je vous invite donc, s'il vous plaît, à revenir dans ce texte de Matthieu, chapitre 7. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit hier. Je pense que ça a dû être enregistré, David. Voilà, donc nous allons, sans transition, si ce n'est la relecture de ce texte, de Matthieu chapitre 7, versets 13, 14, 15 et 16. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? On va continuer jusqu'au verset 20. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Et je voudrais rappeler, allez, le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Poursuivons. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Et il aurait été utile encore de lire, mais il faut bien s'arrêter à un moment donné. Pour rester centré sur le sujet qui occupe donc ces moments. Voilà, j'ai voulu lire jusqu'au verset 21, 22, 23 pour rappeler que cette parole, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux », elle est citée, elle est évoquée par le Seigneur Jésus dans le cadre de l'enseignement qu'il donne au sujet de cette mise en garde qu'il adresse à l'Église contre les faux prophètes, contre les loups. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces loups, dira Jésus, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ces faux prophètes, ils viennent à vous à travers le satellite aujourd'hui, à travers la page imprimée, à travers tous les supports audio, visuel, tous les supports écrits que l'on peut imaginer, de façon pernicieuse. Ce qui est intéressant, c'est que il nous est dit, ils viennent à vous concernant les faux prophètes en vêtements de brebis. On aurait pu s'attendre à ce que le Seigneur dise, ils viennent à vous en vêtements de berger. Hein, voilà, ils viennent à vous en vêtements de berger. Comme pour rassurer les brebis, mais non, le Seigneur dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ce qui montre bien que cette agression contre l'Église par les faux prophètes, elle va se faire à la base et surtout dans le dos de ce que Dieu a placé pour veiller sur l'Église, c'est-à-dire les bergers, les serviteurs de Dieu. Voilà. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, brebis parmi les brebis. Et parfois, une séduction spirituelle peut se glisser au cours d'un repas fraternel, tout à fait innocent, d'inviter des amis, voilà, qui ont aussi des amis, qui, voilà, les amis de mes amis sont mes amis. C'est pas toujours vrai, ça, hein. Il faut veiller, voilà, il faut faire attention parce que ils viennent à vous en vêtements de brebis. Alors, ça veut pas dire que quand on connaît pas, non, c'est pas ça, il s'agit pas de nourrir de la suspicion, non, mais pour ceux qui nous concernent, il faut aimer celui qui aime, nous dit l'Écriture, aucune occasion de chute n'est en lui. Mais il faut aimer de l'amour du Seigneur, de cet amour dont l'Écriture nous dit qu'il est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, parce que c'est un amour qui est accompagné avec un discernement spirituel. Voilà. Alors ils viennent à vous et le Seigneur nous rassure. Le Seigneur est un bon berger qui ne cesse de nous rassurer. Que son nom soit béni, il dit, vous les reconnaîtrez. Vous, mes enfants, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ainsi, nous avons des moyens pour identifier ces faux docteurs, ces faux prophètes. Écoutez, on va essayer de pointer quelques éléments. D'abord, allons s'il vous plaît dans, oui, 2 Pierre chapitre 2. Nous allons tourner les pages de notre Bible et lire beaucoup de versets. Pourquoi ? Parce que c'est important que notre foi soit fondée, comme le disait notre frère Laurent, elle soit fondée sur ce qui est écrit. C'est la foi dans la parole de Dieu. C'est ça qui est important. C'est elle qui nourrit, qui construit, qui est le support sûr et solide d'une foi qui peut vraiment faire face à ces assauts particulièrement pernicieux de l'adversaire. Donc, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, il est question dans ce texte des faux docteurs. Oui, des faux docteurs, c'est ça. Il y a eu, chapitre 2, verset 1er, il y a eu parmi le peuple... de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Certaines versions ont mentionné des hérésies de perdition. C'est vraiment ça. Le terme grec qui est utilisé ici a d'ailleurs donné le mot, c'est le mot hérésis qui a donné le mot hérésie. Voilà. C'est-à-dire enseignement, pervers. Le mot faux prophète, c'est le mot pseudo-prophétesse. On ne va pas faire beaucoup de grec, mais simplement pour dire que pseudomai, c'est mentir. C'est donc des gens qui apportent non pas une parole de vérité pour affranchir, libérer, mais c'est une parole de mensonge qui est souvent accompagnée, on va le voir, par des miracles mensongers pour confirmer ces paroles de mensonge. Vous savez, Luther, on est dans le 500e anniversaire de la réforme, enfin c'était l'an dernier déjà, ça passe, hein. Et donc, Luther disait que le diable, il est le singe de Dieu, dans le sens où il essaie d'imiter, toujours imparfaitement, mais il essaie d'imiter l'œuvre de Dieu. Et il a calqué d'ailleurs toute son organisation sur celle du Seigneur, voilà. Et de la même manière que, eh bien, le Seigneur a ses ministres de l'Évangile, eh bien, nous avons vu hier que Satan aussi a ses ministres, c'est-à-dire ses serviteurs. Et ces serviteurs-là, eh bien, ce sont les faux prophètes, des prophètes de mensonges, qui annoncent des paroles mensongères. De la même manière que la parole des serviteurs de Dieu est confirmée par les prodiges et les miracles du Seigneur, eh bien, ces paroles mensongères sont appuyées par des actes de la puissance des ténèbres, pour conforter les gens dans ce qu'ils entendent de mensonger, pour les maintenir dans l'erreur et dans la séduction. Voilà, on va voir les textes, mais je donne un peu la ligne. Nous allons aller dans des textes bien précis. Mais continuons. Voilà, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà, voilà, on va s'arrêter. D'abord, un des éléments qui permet de reconnaître justement ces faux docteurs, eh bien, c'est qu'ils enseignent des hérésies de perdition. C'est-à-dire, ce sont des paroles mensongères. Ce sont des, de la même manière que la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Eh bien, ces paroles, les enseignements de ces faux prophètes sont donnés sous l'inspiration de mauvais esprits. Je m'arrête pour marquer un temps, une pause, pour que nous comprenions bien cela. Il y a réellement un esprit de séduction à travers des démons, eh bien, qui sont attelés à cette sinistre tâche, n'est-ce pas ? De tromper, d'égarer, eh bien, ceux qui sont à l'écoute de ces faux prophètes. Allons, s'il vous plaît, dans 1 Timothée. 1 Timothée, c'est le temps, c'est l'humidité, il fait chaud, il fait froid. Je suis navré parce que le fait que c'est gratter la gorge, ça fait gratter. Voilà. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, il nous est dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc voilà, encore une fois, dans cet épître, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous délivre le message de Dieu et nous avertit que dans les derniers temps, voilà, quelques-uns abandonneront la foi, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont cesser de croire. Certains vont continuer de croire, mais ils vont croire quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est plus la vérité. Ils vont continuer de croire à des enseignements qui ne sont plus inspirés par le Saint-Esprit, mais qui sont la production, eh bien, de doctrines de démons, parce que ces doctrines sont tout simplement inspirées par des démons. Vous savez, les démons sont des esprits déchus qui ne meurent pas. Les hommes meurent, mais les démons ne meurent pas. Et on n'est pas trop surpris de retrouver des fausses doctrines aujourd'hui qui étaient là quelques siècles en arrière et encore quelques siècles en arrière, pour reprendre la doctrine de l'arianisme, qui est la doctrine actuelle des témoins de Jéhovah, par exemple. Eh bien, Arius était un disciple du Seigneur au départ, c'était un disciple de Jésus, mais qui à un moment donné, il a dévié, il a abandonné la foi transmise au sein une fois pour toutes, pour s'attacher à cette croyance qui consiste à croire que Jésus n'est pas Dieu, alors que la parole de Dieu atteste, c'est pas le temps de démontrer cela ici, mais que Jésus est véritablement, comme c'est écrit, Dieu manifesté en chair. C'est prouvé, quelle que soit la manière dont on aborde le sujet, Jésus est réellement la manifestation de Dieu en chair. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, dira Paul aux Philippiens, mais il s'est dépouillé lui-même. Bon, voilà. Et Arius a commencé à dire, non, Jésus n'est pas Dieu parce qu'il y a un seul Dieu. Il a fait sa démonstration, voilà, et beaucoup ont adhéré à cette doctrine, voilà. Et donc ça fait, évidemment, chaque fois qu'il y a une nouvelle doctrine, elle crée une action, un mouvement, et hélas, il y a toujours des gens qui adhèrent et qui sont emportés par ce courant, et qui se séparent, qui se retrouvent à part, et qui essaient de faire d'autres émules, voilà. Et puis cette doctrine a disparu, et puis elle est ressortie à la fin du 19e siècle, avec l'apparition des étudiants de la Bible, qui sont devenus les amis de l'homme, les étudiants de la Bible, les témoins de Jéhovah, voilà. Et donc, on voit que ces doctrines, qui sont des doctrines de démons, sont... Il y a des tentatives par ces démons d'injecter, en quelque sorte, régulièrement dans l'Église, ces fausses doctrines pour essayer d'emporter des gens. Voilà. Au fil... En tout cas, c'est l'histoire de l'Église qui nous apprend cela. Et nous, nous voulons donc veiller à garder l'Évangile dans l'état où il nous a été transmis, et de le garder tel que, de ne pas ni ajouter, ni retrancher à cette parole vivante et permanente. C'est elle qui nous a sauvés. C'était, on l'a vu, la recommandation que Paul adressait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 et 2. Et on a vu cela, nous allons plus loin. Aujourd'hui, les principales quelques... hérésies qui ont infiltré, on peut dire, tous les milieux évangéliques. Il y a l'évangile, le faux évangile de la prospérité. Si vous avez entendu parler, oui ou non? Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est pas grave du tout. Hein. Voilà. Vous avez malheureusement ce qui revient aussi régulièrement, cette fausse doctrine de la sécurité éternelle, qui consiste à dire, une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé, on ne peut pas perdre le salut, ce n'est pas possible. C'est une grave erreur, c'est une grave hérésie. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'hier, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Voilà. Il y a ce qu'on l'on a appelé les malédictions transgénérationnelles ou les liens ancestraux, l'évangile du royaume maintenant, la prétendue nouvelle réforme apostolique qui prétend que pour que Jésus vienne, il faut que son royaume soit établi sur la terre. Et donc, c'est le rôle de l'Église d'occuper et de conquérir les États, etc. C'est pas nouveau, ça non plus. Ça, c'est ce qu'on appelle le dominianisme. C'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité, au 4e, 5e siècle, voilà, et qui est revenu ensuite à travers notamment l'Église catholique, pour ne citer qu'elle, voilà. Donc ça, ce sont les principales doctrines, il y en a encore d'autres, mais bon, voilà. Donc, voilà à quoi on peut reconnaître ces faux prophètes. Ils annoncent des doctrines de démons, des hérésies de perdition. Un des traits caractéristiques des faux prophètes également, ou des faux docteurs, c'est la flatterie. Ce sont des hommes, et des femmes aussi, qui pratiquent avec beaucoup d'habileté la flatterie, au motif de valoriser un tel, une telle. Ils vous caressent, comme on dit, hein, dans le sens du poil, voilà. Vous êtes quelqu'un d'important, merci vraiment parce que vous existez, sans vous la création ne serait pas complète, ce qui est vrai, puisqu'on est là. Voilà. Mais il pousse à l'extrême des choses qui flattent l'ego, qui dilatent l'être intérieur, voilà, la flatterie. Romains chapitre 16, verset 17, voilà, je vous le lis ici. « Je vous exhorte, disait Paul donc aux Romains, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Attention donc, frères et sœurs, à la flatterie. Attention à ces gens qui viennent vous dire que vous êtes quelqu'un d'important. Ça, on n'avait pas besoin qu'ils nous le disent, on le savait déjà. C'est vrai, non? Donc on n'avait pas besoin, voilà. Mais ils viennent vous le dire de manière à, voilà, tu auras un grand ministère, tu feras ceci, cela, tu seras, voilà. Le drame, c'est que certains se font harponner par ces paroles. Et nous ne devons pas sous-estimer la parole de Dieu, la parole de Jésus qui dit que ces faux prophètes, je ne reviens pas sur Matthieu chapitre 24, dans les derniers temps, séduiront beaucoup de gens. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte à nous affermir dans notre appel, dans notre vocation, à nourrir au quotidien une vraie communion avec Jésus. Dieu nous appelait, Dieu vous appelait, disait Paul aux Corinthiens, à la communion de son Fils. Dieu ne nous a pas appelés seulement à venir pour assister à des offices religieux. Attention à ne pas tomber à ce que l'évangile de Jésus-Christ, nous ne le transformions pas en une religion évangélique. Ne devenons pas des religieux évangéliques qui vont à la messe évangélique. Oh, pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est pernicieux, c'est dangereux. Et si nous ne cultivons pas cette communion avec Jésus, nous ne tiendrons pas. Nous ne tiendrons pas. Alors, ces gens-là sont des gens qui auront du succès. Nous vivons dans un monde où on court après le succès. C'est normal, on a envie de réussir chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime l'échec? Ne levez pas la main, personne n'aime l'échec, bien évidemment. Non, on fait des choses pour réussir, etc. Mais attention, comme disait quelqu'un, la réussite, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, quoi. Il y a la bonne réussite et la mauvaise réussite, et c'est vrai. Mais ces faux prophètes-là, ils auront beaucoup de succès. Je dis cela parce que aujourd'hui, les gens sont attirés. Ah, dans cette église, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Gloire à Dieu, c'est le réveil. Alors, on pense que parce qu'il y a du monde, c'est le réveil. Mais vous savez, si vous élargissez la porte étroite, les foules vont venir. Voilà. Les foules vont venir. Dans certaines assemblées, malheureusement, eh bien, comment dirais-je, voilà, on a baissé, comment dirais-je, les normes morales à tel point, mais j'allais dire, pardonnez-moi l'expression, mais tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, Dieu nous aime tel qu'il est, Dieu nous aime tel que nous sommes, pardon, et il nous accepte tel que nous sommes. C'est vrai, mais il nous accepte pour nous changer, pour nous transformer et pour nous rendre semblables à l'image de son Fils Jésus. Et c'est tout le travail de sanctification qui s'opère en nous à travers la parole de Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies, pour peu que nous nous nourrissions au quotidien de cette communion avec Jésus. Et c'est lui, oui, qui par l'action de l'Esprit nous transforme, nous l'Écriture, de gloire en gloire. Oui, Dieu nous aime tel que nous sommes, Dieu nous accepte tel que nous sommes, au départ, parce que Jésus mangeait avec les pécheurs. Il mangeait avec les pécheurs, mais il leur donnait une parole, il leur adressait un message pour qu'ils changent de vie, et il leur donnait les moyens, comme il nous a donné les moyens de changer de vie. Et à travers sa parole, il révèle son amour pour que nous puissions nous détourner de nos péchés. Donc, il faut faire attention. Alors, ce n'est pas étonnant que dans il y ait certaines communautés où, voilà, on accepte même. Alors, le mariage, vous avez entendu parler du mariage, le mariage pour tous ? Mais c'est une abomination épouvantable. Voilà, c'est épouvantable, voilà. Ben, il y a même des courants évangéliques maintenant qui, eh bien, qui marient des personnes de même sexe, ce qui est une abomination épouvantable. C'est épouvantable. Voilà. Alors, ces églises, elles prospèrent, c'est le réveil, mais c'est faux. C'est faux. Ils auront du succès, attention. Béni soit le Seigneur aussi pour ces églises qui marchent encore sur le chemin resserré. Voilà. Le terme resserré, dans le grec, c'est un. Comment dirais-je ? Le mot qui est utilisé, c'est un mot qui a donné, le verbe utilisé, c'est le mot, il a donné le mot tribulation, voilà, épreuve. Donc, le chemin resserré, c'est un chemin de tribulation. Vous savez d'ailleurs que Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, après avoir passé, eh bien, par les villes dans lesquelles le Seigneur l'a conduit, il revisitait ces villes, il séparait les disciples et il les exhortait en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, vous avez aujourd'hui un évangile qui refuse la souffrance. C'est l'évangile de la prospérité. Imaginez que vous prêchiez cet évangile. Enfin, non, c'est mal formulé. Imaginez que, voilà, les gens viennent, sont à la recherche de l'évangile, d'entendu parler de l'évangile, puis entendre cet évangile qui consiste à dire que Dieu nous aime. Qu'il veut nous guérir, qu'il veut que nous soyons riches, qu'il ne veut plus que nous souffrions. Qui veut se convertir à Jésus ? Qui veut de ce Jésus-là ? Mais il faudrait être fou pour dire non. Non ? Vous êtes là ou ? Mais oui, mais cet évangile, mais à moins de ne pas le comprendre, mais tout le monde va l'accepter. Mais il y a des églises qui prêchent cet évangile-là. Voilà. Hélas. Mille fois hélas. Donc le succès n'est pas un critère. Attention, donc. Attention à ces faux Christ. Je ne reviens pas sur ce que nous avons vu hier à ce propos. Ces faux prophètes aussi, ces faux docteurs, nous l'avons lu tout à l'heure, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la perdition. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ces faux prophètes-là, d'ailleurs ça va avec l'évangile, ce faux évangile de la prospérité. Hein. La cupidité, c'est l'amour de l'argent et ces faux prophètes, ils aiment beaucoup l'argent. Et dans certains de leurs discours, vous avez, ils parlent beaucoup d'argent. Il faut donner au Seigneur. Alors attention, je veux quand même équilibrer mon propos en disant que il est normal que nous apportions notre dîme et notre offrande au Seigneur. Il est important que nous soyons fidèles dans ce domaine, comme dans les autres domaines d'ailleurs, enfin du reste plutôt. Mais attention à ces prédicateurs qui ont toujours le mot argent, qui font toujours des appels d'argent. Ils sont constamment en train de, voilà, ils ont des projets, voilà, et ils aiment beaucoup l'argent, et Dieu leur a montré que ceci, cela, alors il faut que l'Église finance, paye des voyages, sont logés dans les meilleurs hôtels, c'est terrible, n'est-ce pas ? Mais l'Écriture nous a avertis, voilà. Voilà, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand vous voyez un prédicateur de l'Évangile qui descend dans l'un des plus chers hôtels, à Monaco, c'est pas 30 euros la nuit là, hein. C'est 30 euros la minute de la nuit, c'est très très cher, c'est très très cher ces hôtels, voilà, mais voilà, ils entrent là, ils dorment là, voilà, ils ont je ne sais combien de voitures, vous savez que le magazine Forbes qui recense dans le monde les grandes fortunes, hein, voilà, je ne sais plus si c'est tous les ans ou tous les deux ans, je ne sais plus, mais vous avez le classement des plus grandes fortunes. Vous serez étonné de trouver qu'il y a dans cette liste des pasteurs. Je ne sais pas dans le top 10, mais il y a notamment un pasteur dont la fortune est estimée, je crois que c'est autour de 350 millions de dollars. C'est, ça vous donne le tournis, quoi. Hein. C'est, dites 350, on a du mal à se représenter ce que c'est que 350 millions de dollars. Alors, il a une villa qui ressemble plus à un palais fortifié, parce qu'ils ont besoin de sécurité, ces gens-là. Parce que la foi ne les sécurise pas, vous voyez, leur foi. Alors, ils ont besoin de beaucoup de sécurité. Je ne veux pas plaisanter là-dessus, c'est trop grave. Vraiment, ces hommes, cet homme-là dont je parle, il a donc une résidence fortifiée au Nigeria. Il a une autre villa, presque un château, en Angleterre et aux États-Unis. Il a trois jets. Il a des voitures de course. Quand vous voyez l'état des routes du Nigeria, hein, ceux qui vont régulièrement en Afrique, je fais partie de ceux-là, vous n'avez pas beaucoup de possibilités pour faire de la grande vitesse, mais ils aiment montrer qu'ils sont riches parce que ils veulent montrer qu'ils ont la bénédiction de Dieu. Voilà. Quelle différence. Et ces gens-là, ils prêchent que, voilà, si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Vous êtes malade, c'est que, vous allez voir s'il n'y a pas un péché quelque part, une désobéissance qui se cache, voilà. Je pense au ministère de l'apôtre Pierre. Quand, avec Jean, il monte au temple à l'heure de la prière, il voit le boiteux, là, assis sur les marches de la belle porte du temple. Rappelez ce qu'ils vont dire, ce que Pierre va dire. Il va dire, je n'ai ni argent, ni or. Mais il n'est pas béni, alors s'il n'a pas d'argent, pas d'or. Selon ce faux évangile de la prospérité. Mais Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je ne te le vends pas. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et pour encourager sa foi, il le prend par la main, il le fait lever. Et ce boiteux se laisse entraîner par cette parole de foi, de Pierre, expérimente la grâce de Dieu, l'approbation de Dieu. Voilà un homme qui n'avait ni argent ni or. Je me demande ce que pouvaient penser ces pasteurs de l'évangile, du faux évangile de la prospérité. Je me demande comment ils peuvent parler de ce texte. Et que dire de cette pauvre veuve qui a juste deux petites pièces pour vivre et qui va les offrir au Seigneur. Il nous est dit que Jésus regardait, pas combien, mais comment les gens mettaient dans le tronc, quelles étaient les dispositions de leur cœur, qu'est-ce qui accompagnait leur offrande. Et il va dire que cette femme-là, qui était pauvre, qui était veuve, donc qui vivait dans le malheur, cette femme-là, elle a donné plus que tous les autres. Deux petites pièces, ce n'était pas la valeur financière qui importait, c'était la valeur sacrificielle, je vais dire, sacrificielle. C'était ce que ça représentait. C'était toute sa vie. Mais les faux prophètes, ils aiment beaucoup l'argent. Ils aiment les honneurs. Ils aiment beaucoup les honneurs. Vous avez l'histoire de Balaam. Tenez, allons dans 2 Pierre pour aller... Voilà. Allons, si vous voulez, au verset 15 directement. Tout ce chapitre, de toute façon, tout ce chapitre 2 de la seconde épître de Pierre concerne la description des faux docteurs, des faux prophètes. Après avoir quitté le droit chemin, verset 15, Ils se sont égarés en suivant la voie, il est question des faux prophètes. C'est intéressant parce qu'il dit « après avoir quitté le droit chemin », ce qui signifie que je vous parlais hier, on va lire le texte en entier, et après on va revenir là-dessus. « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. » C'est intéressant de noter que Balaam, il est encore appelé prophète là. Ce n'est pas un faux prophète, mais il est appelé prophète. Mais avant cela, regardez, il est dit que ces faux prophètes, verset 15, ils ont quitté le droit chemin. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont marché sur le droit chemin. Ils ont marché pour un temps dans la voie de la vérité. Le verset 21 nous dit, même le verset 20, il nous dit, « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de la voie connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. » Là, ça concerne les faux prophètes. Et ils ont donc quitté le droit chemin. Ce texte nous montre qu'on peut connaître le salut, on peut le perdre si on ne veille pas. Jésus a dit que personne ne pourra nous ravir de sa main. Gloire à Dieu, parce que nous sommes gardés sûrement par le Seigneur dans sa main, mais nous ne sommes pas gardés contre notre volonté. Nous sommes gardés avec l'accord de notre volonté. Si nous voulons, nous pouvons quitter. Nous pouvons quitter la main du Seigneur. Vous comprenez cela? Nous le comprenons bien. Eux, ils ont quitté. Séduits qu'ils ont été. Ils ont quitté parce qu'ils n'ont pas veillé. D'où les exhortations multiples et du Seigneur et des apôtres à la vigilance, au fait de veiller, de prier, à la sobriété en toutes choses. On a besoin de veiller. Voilà. Je veux parler maintenant juste de Balaam, parce que cet homme, je vous disais, ces faux prophètes, ils aiment l'argent, ils aiment les honneurs. La faille dans la vie de ce prophète Balaam, qui a été... Comment ? Cet homme a une personnalité très ambiguë, vous trouverez son histoire dans le livre des Nombres, c'est chapitres 22 et 23, si ma mémoire est bonne, j'avais noté cela. Voilà. Chapitre 22 et 23 du livre des Nombres, vous avez son histoire. Balaam est vraiment le type du faux prophète dont la chute interviendra à cause d'une faille dans sa vie. Cette faille, c'est qu'il aimait l'argent, il aimait les honneurs. Je reprends rapidement l'histoire. Balaam, c'était à l'époque du roi Balak, le roi des Moabites, qui vraiment luttait contre Israël, mais il ne pouvait pas le défaire, le vaincre, parce qu'il avait la protection de Dieu. Et donc, il va payer... Balaam, dont il connaissait la puissance des oracles, et il va lui offrir de l'argent pour qu'il maudisse ce peuple. Et Balaam, la première fois, va dire non. Mais la seconde fois, Balak lui dit, tu sais, si tu viens, je te rendrai beaucoup d'honneur. Il a touché la fibre sensible, la faille de la cuirasse, le venin est entré par là. Et Balaam, il est allé, et puis, quand il s'est agi de maudire le peuple, mais voilà, c'est là que je vous dis que la personnalité de Balaam, elle est ambiguë, l'Esprit de Dieu l'a saisi, un peu comme, je dirais, avec les accents de la grâce avant l'heure. Et il va prophétiser, malgré tout, la bénédiction sur le peuple d'Israël. Voilà, et Balak, il est en colère. Il prophétise la grâce, la bénédiction sur le peuple d'Israël sous l'inspiration de l'Esprit qui est encore avec Balaam. Mais finalement, Balaam, il est attaché à cet or, à ses honneurs, et il va donner à Balak son enseignement. Il va dire à Balak, écoute, bon, j'ai pas pu, je peux pas maudire ce que Dieu bénit. Mais voilà le conseil que je te donne. Va corrompre les enfants d'Israël. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Je ne vais pas développer, mais la doctrine de Balaam. Balaam a dit à Balak, si tu les corromps, eh bien, ils auront la désapprobation de Dieu. Et à ce moment-là, tu pourras les vaincre. Voilà. Et ça, c'est la doctrine de Balaam. Il aimait les honneurs. Nous savons qu'il a péri misérablement. Le dernier souvenir que l'on a de Balaam, c'est celui-ci, c'est la folie de cet homme. La folie de cet homme qui a été entraîné dans cette folie par la séduction des richesses et des honneurs. Ces faux prophètes, vous les reconnaissez parce qu'ils aiment les honneurs, ils aiment être mis en avant, ils ont une fausse humilité. Quelle différence encore une fois avec l'apôtre Pierre ? Car après avoir guéri, je reviens à cet exemple, après que le Seigneur à travers Pierre ait guéri donc ce boiteux, tous les regards étaient portés sur Pierre et Jean. Et Pierre s'est rendu compte de cela. Et il va dire, mais pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre puissance, ou même par notre piété, que nous avons fait marcher cet homme. Et en substance, ça voulait dire, mais c'est pas nous. Mais arrêtez de regarder vers nous. C'est Jésus de Nazareth. C'est vers lui qu'il faut regarder. Quelle différence. Quelle différence. Voilà un homme, Pierre, qui avait appris à marcher derrière le Seigneur Jésus. Derrière le Seigneur Jésus. Et qui s'arrangeait pour faire en sorte que, malgré toute la mesure de grâce qu'il pouvait y avoir sur la vie de cet homme, dont je rappelle que sa seule ombre, quand il passait, quand on savait que Pierre devait passer, vous connaissez ce texte, on sortait les malades, on les passait au bord des rues pour que seulement l'ombre de Pierre les touche, et les malades étaient guéris. Mais jamais cet homme ne s'est attiré la gloire. Voilà. Mais ils aiment beaucoup les honneurs, ça c'est un moyen de reconnaître les faux prophètes. On avance pour voilà un autre point vraiment important aussi, c'est que ces faux prophètes aussi, ils sont capables, et c'est là peut-être un des aspects les plus séduisants et sur lesquels on a besoin vraiment de veiller. Ils sont capables d'opérer de grands prodiges et de grands miracles. Alors je voudrais vous montrer quelques textes maintenant. Je rappelle Matthieu chapitre 24, verset 24, où il est dit, « Car il s'élèvera de faux Christ, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Voilà. Le Seigneur Jésus l'a dit, « Ils feront de grands prodiges et des miracles. » Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16. Il est question de ce trio sinistre que sont le diable, l'antichrist et le faux prophète. On peut lire le verset 13, voilà, Apocalypse chapitre 16, verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, il s'agit de l'antichrist, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc il est question ici de la grande bataille d'Armageddon qui va se dérouler donc juste avant l'avènement, le retour du Seigneur en gloire avec l'Église donc sur la terre. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que sort de la bouche de ces du dragon, voilà, de la bête et du faux prophète, des esprits de démons qui font des prodiges. Voilà. Et je voudrais rappeler que nous ne devons pas être surpris que ceux qui prêchent un faux évangile, que ce faux évangile soit accompagné avec des prodiges et des miracles. Parce que ces hommes qui sont marqués de la marque de la flétrissure, qui sont animés par l'esprit de la séduction, on le voit, peuvent être également animés d'esprits mauvais, de démons, qui sont en mesure d'opérer de grands prodiges et de grands miracles. Et l'Écriture nous dit, au point même, si c'était possible, de séduire, il y a une puissance de séduction dans ces miracles qui pourrait mettre en péril les élus, si c'était possible. Mais ça n'est pas possible. Béni soit le Seigneur. Mais c'est pour cela que ces gens-là opèrent des prodiges et des miracles. Et il ne faut pas se laisser impressionner par les prodiges ou par les miracles. Mais ce sur quoi nous avons besoin de veiller, c'est sur le contenu de la parole qui est annoncée. C'est cela qui est important. C'est la foi dans l'Écriture qui compte. Parce que la foi dans les miracles, le jour où les miracles cessent, à cause de l'infidélité du peuple de Dieu. Il y a eu des temps de disette comme cela. Eh bien, le jour où les miracles cessent, si la foi repose uniquement sur les miracles, ben la foi, elle va disparaître. Mais la foi dans l'Écriture, c'est cela qui compte. Et c'est cela que nous avons besoin de cultiver. Il y a un homme, dans Actes des Apôtres, chapitre 8, c'est l'histoire de Simon le magicien. Je voudrais dire un mot sur cet homme, parce que cet homme, d'abord, c'était un grand magicien qui tenait toute la ville de Samarie, et on peut dire toute la région de Samarie, sous son pouvoir. On disait de lui, tant les prodiges et les miracles qu'il accomplissait étaient étonnants, on disait de lui, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Comme s'il y avait une moyenne, celle-là, c'est pas, oui, c'est la puissance de Dieu, mais c'est dire la confusion parfois dans laquelle les gens peuvent être. Et les gens étaient étonnés, mais quand Philippe est venu et qu'il a prêché le Christ sous l'onction du Saint-Esprit, les hommes et les femmes ont été guéris, délivrés de démons, et la parole de Dieu nous dit que Simon lui-même a cru. Il a cru et il voyait les gens se détourner de lui et il voyait en même temps que les gens se détournaient de lui, eh bien son influence diminuait. Or ces gens-là, ces faux prophètes, ils aiment beaucoup le pouvoir, ils aiment dominer sur les gens. Ils aiment dominer sur les gens. Alors que les authentiques serviteurs de Dieu se cachent derrière le Seigneur Jésus. Pour un véritable serviteur de Dieu, une réunion qui a été une bonne réunion, eh bien c'est une réunion qui, lorsqu'elle se termine, eh bien fait que les gens, quand ils sortent, ils ont le nom de Jésus sur les lèvres. Ils parlent de Jésus et ils racontent Jésus et ils glorifient Jésus. Voilà, ça ce sont les authentiques serviteurs de Dieu. Les faux docteurs, ils aiment le pouvoir. Et ils aiment être bien en vue, avoir de grandes affiches. Ils aiment qu'on parle d'eux. Ils aiment se raconter, se mettre en scène. Paul disait, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et les serviteurs de Dieu sont même très vigilants dans la manière dont ils peuvent rapporter les témoignages de la grâce de Dieu, dont ils ont pu être les témoins oculaires à travers leur propre ministère, et ils prennent bien soin, en racontant ces témoignages, de faire en sorte que les gens ne fixent pas les regards sur eux-mêmes, mais puissent fixer les regards sur le Seigneur Jésus. Je me souviens Lorsque j'étais tout jeune prédicateur, j'étais très maladroit dans la manière de raconter certains témoignages de la grâce du Seigneur. Et ce qui m'a permis de m'en rendre compte, c'est qu'un jour à la sortie d'une réunion, à l'époque on se mettait à la sortie des réunions, on saluait les gens tout simplement, et une personne qui venait pour la première fois, donc je la saluais, une dame, m'a pris ma main et puis je m'attendais à ce qu'elle l'a, elle ne lâchait plus ma main, on sentait comme si elle voulait puiser un fluide. Et là, ça m'a touché. Et je me suis dit, c'est ta faute. Je devais avoir été certainement bien maladroit pour que cette femme puisse penser à la sortie d'une réunion que j'étais peut-être une sorte de guérisseur et que j'avais comme un pouvoir. Pourtant, on le disait à l'époque. Et à l'époque, c'était quasiment rituel. Nous n'avons pas de fluide, pas de pouvoir, etc. Mais vous savez, parfois, vous dites une chose, les gens disent oui, mais ça passe, ça entre là, comme on dit, et ça sort par là. Voilà. Et je m'en rappelle encore. Donc, mais ces faux prophètes-là, ils aiment se raconter. Et Simon, il s'est rendu compte que la région, la ville, la région lui échappait. Pierre et Jean sont montés quand ils ont appris l'œuvre que Dieu faisait par les mains de Philippe. Ils sont montés pour affermir le peuple de Dieu parce que, en tant qu'apôtres, ils étaient bien informés des dangers, des assauts de l'ennemi pour essayer de récupérer sous son pouvoir tous ces gens qui avaient été sauvés. Et ils sont venus pour que ces gens soient remplis du Saint-Esprit. Et quand Simon-Pierre a été le témoin que ces gens étaient remplis du Saint-Esprit, il va leur dire ceci: accordez-moi aussi ce pouvoir. C'est comme si, par ses propres paroles, voyez, il parlait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Eh bien, cet homme, on voit par ses paroles qu'au fond, il était en recherche de pouvoir. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu voilà, ça c'est très bien. Je me doutais qu'il y avait quelque chose quand même. Je voyais. Voilà. Non mais ça. Alors si on peut lire la suite du verset, voilà. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. On continue. Voilà. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. C'était tellement grave ce qu'avait fait Simon le magicien que Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, évoque la possibilité que c'est vraiment limite. Il est à la limite. Simon le magicien, qui avait cru, qui s'était fait baptiser. Voyez le danger ? On l'a lu. Paul l'avait averti, l'église d'Éphèse, à travers les responsables de cette église. Il s'introduira parmi vous, mais il s'élèvera du milieu de vous. Des hommes. Mais voilà, Simon était baptisé, il faisait extérieurement partie du peuple de Dieu, mais intérieurement, son cœur n'avait pas été régénéré. Il n'était pas né de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un manque de droiture dans son cœur, un manque d'humilité. Il recherchait le pouvoir. Alors il avait cru, peut-être une conversion émotionnelle, ça peut arriver, oui. Mais en tout cas, nous savons, pas par... dans les Écritures, mais par l'histoire de la Bible, par l'histoire de l'Église, ce qu'est devenu Simon le magicien. Il a fondé ce qu'on appelait la secte des Simoniens. Voilà. Il est parti, il est retombé dans sa magie, dans un mysticisme tel que, à la fin de sa vie, cet homme se prenait pour l'incarnation de Dieu sur la terre. Voilà. Mais cet homme a manifesté des pouvoirs tels, des pouvoirs magiques tels, que l'empereur Claude lui a érigé une statue. L'empereur romain Claude lui a érigé une statue. C'est dire, voilà. Et il est mort dans une folie mystique, voilà. Et Pierre, tout au long de sa vie, il raconte l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de l'Église, hein, voilà. Eh bien, a combattu les hérésies, donc des Simoniens, voilà. Donc il faut faire attention aux prodiges, aux miracles. Ne courons pas après les prodiges. Je rappelle que le chrétien, lui, il ne court pas après les prodiges, mais les signes et les miracles l'accompagnent, lui, le suivent, lui. Voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Quand on est né de nouveau, on ne court pas après les miracles, mais par la grâce de Dieu, nous vivons un miracle permanent. Et nous pouvons entraîner des hommes et des femmes dans ce miracle d'une vie avec Dieu extraordinaire. Alors, un dernier point, je ne vois pas l'heure parce qu'il y a le reflet. Combien ? 5 minutes, d'accord. Un dernier point, de toute façon, voilà, on arrive au dernier point. Oui, dans la seconde épître de Pierre, pardon, au chapitre... Au chapitre 2, reprenons ce texte, 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 10 et 11, voilà, donc si on peut afficher le verset, c'est vers le milieu du verset, voilà, merci à la technique. Voilà, nous voyons, toujours concernant ces faux prophètes, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Donc là, nous avons encore un trait de ces faux prophètes, c'est leur arrogance et leur orgueil. Je vous disais il y a quelques instants que c'est un signe qui permet de reconnaître ces faux prophètes. Ils se mettent souvent en scène eux-mêmes, se racontant à travers les œuvres de Dieu qu'ils ont vues, les œuvres du Seigneur, car ils disent que ce sont les œuvres du Seigneur, même si ce sont des miracles mensongers. Souvenez-vous, tenez, pour que bien saisir la chose, vous rappelez lorsque Moïse s'est présenté devant Pharaon, envoyé par le Seigneur, pour signe, Dieu lui avait dit, tu mettras ton bâton par terre, et il se transforma en serpent. Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon ? Il a appelé ses magiciens. Et ils ont fait exactement la même chose. Ils ont jeté leurs bâtons, qui se sont transformés en serpents. C'est un prodige. Mais le diable est capable de faire des prodiges. Le serpent de Moïse, a gobé les deux serpents, parce que rien ne peut surpasser la puissance de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et Moïse, il a repris en main le serpent qui est redevenu le bâton de l'autorité du Seigneur, voilà. Mais c'est extrêmement pernicieux et séduisant, les miracles. Là, on est confronté à l'arrogance et à l'orgueil de ces hommes qui se racontent, et qui racontent notamment leur expérience de lutte contre la puissance des ténèbres, des démons qu'ils ont chassés. Lorsque vous entendez des hommes qui vous parlent sans arrêt, qu'ils ont chassé des démons par-ci, par-là. Moi, ça m'est arrivé d'écouter, parce qu'il faut se documenter pour voir un petit peu les réalités des choses qui se vivent aujourd'hui. Mais vous avez les gens, vous avez la caméra qui est fixée sur ce faux prophète-là, qui fascine littéralement leur auditoire. Et vous avez les gens, ils sont là, ils sont presque la bouche ouverte. Ils sont saisis, complètement saisis. Vous avez des gens qui vont dire... Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, voilà la puissance de Dieu, oui. Mais Dieu dit, ça, c'est un faux prophète. Parce que des gens, il est question d'injurier les gloires. Il est question dans ce texte, les gloires ce sont, on l'a compris, les anges déchus. On les appelle des gloires parce que ce sont malgré tout des gloires funestes. Ce sont des anges déchus qui n'ont pas gardé leur dignité, nous dit l'Écriture, qui l'ont abandonné. Certains de ces anges d'ailleurs sont enchaînés par les ténèbres. Ils deviendront d'ailleurs dans les temps de la fin un des moyens de jugement terrible du Seigneur. Vous avez ça dans l'Apocalypse, quand ils seront libérés, voilà. Et ils deviendront un moyen de jugement terrible pour la terre, malheureusement, voilà. Mais ces faux prophètes-là, ils injurient. Ils disent des injures à l'égard de Satan, à l'égard de ses démons. Et frères et sœurs, nous n'avons pas le droit d'injurier, jamais d'injurier, ni les hommes, ni les anges déchus, ni même Satan, qui est un chérubin déchu. Nous n'avons pas le droit. Parce que proférer une injure sur quelqu'un, c'est proférer un jugement. Nous n'avons pas le droit de juger ni les hommes, ni les anges. Le temps viendra où l'Écriture nous dit que nous jugerons les anges qui ont péché. Oui, ce temps viendra lorsque nous serons associés au gouvernement dans le ciel, avec le Seigneur. Mais ça viendra en son temps. Voilà. Regardez ce que dit l'Écriture. D'ailleurs, Jude reprend cette pensée. Jude, verset, l'épître de Jude, verset 8. Et puis on va terminer là. Hein. Verset 8, Jude, verset 8. Malgré cela, ces hommes, donc il est question encore des faux prophètes ou des faux docteurs, ces hommes, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime. » Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Là, il y a plusieurs points, mais juste pour rester sur le verset 9, où quand même ce texte nous dit que l'archange Michel, l'archange, c'est pas un ange, un archange c'est une principauté d'ange. L'archange Michel, malgré sa position de haute autorité déléguée par Dieu sur les autres anges, notamment sur cet ange déchu qu'est Satan, qui était avant chérubin protecteur, les chérubins sont une classe d'anges. Malgré l'autorité que pouvait exercer cet archange sur cet ange déchu, il n'a pas osé prononcer sur cet ange déchu un jugement injurieux. Mais ces faux prophètes-là, pour impressionner leurs auditoires, sont capables de tout, entraînés par leur folie. Voilà. C'est encore une caractéristique des faux prophètes. Il y en a d'autres. Vous verrez 2 Pierre chapitre 2, verset 12 et à 14, il dit, ils ont les yeux insatiables d'adultère. Il est évoqué ici l'aspect de la moralité de ces hommes dont souvent leur moralité tout simplement laisse à désirer. Voilà. Ce sont parfois des hommes qui ont connu des échecs personnels, des chutes morales parfois retentissantes, mais qui ont rebondi et qui parfois se sont séparés, divorcés, se sont remariés, sont reséparés, puis remariés, et ils invoquent des prétextes, et les gens fascinés qu'ils sont, ils gobent tout cela, alors que l'Écriture nous dit bien que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure. Dieu jugera les adultères et les débauchés. Eh bien, ces hommes, ils ont les yeux insatiables, nous dit, d'adultère. Et souvent, Ben, leurs auditoires sont des victimes potentielles de ces hommes qui font un terrain de chasse, en quelque sorte, de, voilà, peut-être ces jeunes filles qui sont là impressionnées par oh, ces hommes de Dieu, sont des hommes pécheurs, sont des hommes impies. L'Écriture nous dit l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc que Dieu nous aide à réfléchir tout cela, l'intégrer à notre vie. Reprenons tout cela, vraiment, pensons à tout cela dans le contexte des temps que nous sommes en train de vivre et laissons-nous équiper par le Seigneur, par le Saint-Esprit pour non seulement nous préserver nous-mêmes, mais peut-être ramener. Permettez-moi juste le dernier verset. Regardez ce que dit Jacques. Jacques chapitre 5. Voilà. Mes frères. Jacques dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, le terme égaré, c'est a été séduit. Je n'ai pas eu le temps de vous dire que dans la parole de Dieu, lorsque vous voyez le terme égaré, comment dirais-je, erreur, séduit, séduction, c'est souvent le même mot, le même verbe ou le même nom en grec. Voilà. Si quelqu'un s'est égaré ou a été séduit loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est possible de ramener quelqu'un qui s'est égaré. Et nous avons vu, béni soit le Seigneur, l'œuvre de Dieu se faire aussi à ce niveau-là. Des hommes, des femmes qui sont partis dans des groupuscules animés par des séducteurs, puis qui sont revenus. On leur avait dit, mais si vous revenez, mais on va vous forcer à vous repentir publiquement. On leur avait mis une tête comme ça. On les a accueillis. On les a aimés. On a parlé avec eux. Et un jour eux-mêmes ont dit, nous aimerions dire quelques mots à l'Église. Et je me souviens de ce frère. Un frère qui avait été trompé. Il est revenu après peut-être 15 années. 15 années. Et il est revenu tout doucement dans l'église. Et alors, quand il est revenu, il y a une sœur qui m'a dit, « Frère, attention, vous avez vu cet homme, il est parti dans la division avec un tel, voilà, il nous a fait beaucoup de mal, on sentait encore une amertume. » J'ai dit, « Écoutez, ma chère sœur, laissez. Merci pour votre information, je vais veiller. » Mais ne faites rien, ne dites surtout rien. Parce que qui vous dit que ce n'est pas le Seigneur qui le ramène? Et ce frère est venu pendant plusieurs réunions. Et je l'ai salué comme tout le monde. Je l'ai embrassé comme tout le monde. Et puis au bout de deux, trois mois, ce frère m'a dit tout simplement... Est-ce que je pourrais dire quelques mots à l'église? C'est-à-dire, on a vu un entretien et il m'a raconté un petit peu ce que je savais déjà. Mais je ne lui ai pas dit que je le savais déjà. Et il m'a dit, avec les larmes aux yeux, s'il pouvait dire quelques mots à l'église. Eh bien, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Un dimanche matin, il s'est adressé à l'église. Et vraiment, ça a été un moment de grâce pour l'Église qui a pu voir comment le Seigneur est capable de faire grâce. Et cet homme, quand il s'est exprimé, quand il a fini de s'exprimer, je crois que je peux dire sans me tromper que l'Église unanimement voulait le prendre comme ça pour l'enlacer. Ça a été un moment de grâce. C'est possible qu'un pécheur soit ramené de la voie sur laquelle il s'est égaré. Mais il faut qu'il puisse trouver ce qui est essentiel à l'Église, l'amour versé dans le cœur des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Donc on parlera demain matin, Dieu voulant, des terrains qui sont favorables à la séduction et comment résister. Mais à travers ces quelques éléments, si nous les retenons bien, ça nous donne aussi des outils, si vous voulez, vous connaissez une personne, peut-être là ou là ou là, vous savez peut-être comment lui parler à travers des textes, tout doucement, ne prenez pas la Bible et... Voilà, mais voilà, ça peut vous donner des outils, puis vous avez votre pasteur, surtout qui est là, et on va prier, voilà. Nous te rendons grâce, Éternel notre Dieu, parce que tu nous as sauvés. Nous n'étions pas meilleurs que les autres, et nous ne le sommes toujours pas, Seigneur. Mais nous te rendons grâce de ce que ta parole touche encore nos cœurs. Et nous te prions, ô notre Dieu, afin que nous gardions ta parole vraiment dans notre cœur, que nous la gardions avec amour, ô Seigneur, afin qu'elle-même soit en mesure aussi de nous équiper, pour que nous soyons gardés de cette menace redoutable pour les enfants de ton peuple. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, de nous aider ensemble, Seigneur, à tenir ferme dans ces mauvais jours dont nous savons qu'ils vont être de plus en plus mauvais, mais la lumière luit dans les ténèbres. Et au plus les ténèbres s'épaississent, au plus la lumière brille d'un éclat supérieur. Alors Seigneur, aide-nous, ô notre Dieu, à vraiment être remplis du Saint-Esprit pour que nous puissions, par le seul effet de ta grâce, briller comme des flambeaux dans le monde et qu'il s'échappe de notre vie cette parole de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen.